Rami El Obeidi, bonjour.
Bonjour.
141 combattants du maréchal Haftar tués le 18 mai dernier sur la base de Brak al-Shati dans le sud libyen. Comment expliquez-vous ce massacre ?
Ben écoutez, premièrement, je voulais vous faire une correction. Ce ne sont pas 141 combattants du soi-disant maréchal Khalifa Haftar. Ce sont 141 soldats des forces armées libyennes. Deuxièmement,
d'accord.
L'attaque était beaucoup plus envers la tribu des Magaha el-Magrahi, dont le commandant Ben Nayel fait partie, par les forces de la troisième force, qui sont des Misrati aussi, qui ont un alignement de la tribu des Aulad Sleiman, ennemis des Magarha, mais cet événement signifie le début de la guerre civile dans l'ouest de la Libye.
Dans le Fezzan.
Dans l'état de Fezzan et dans l'ouest de la Libye. Et, bien sûr, il va y avoir des répercussions dans l'état de Barka, dans la Cyrenaica, à l'est de la Libye. Il faut aussi souligner autre chose, la nature des deux hommes. Ben Nayel, le commandant Ben Nayel, l'histoire entre lui et Khalifa Haftar est une histoire qui n'est pas excellente. Haftar est obligé de contrôler Tripoli parce que sa base de popularité dans l'est de la Libye est en train de descendre. Il ne peut pas contrôler l'est de la Libye. La population ne veut pas de Khalifa Haftar. Les hommes de l'armée, ils tiennent Khalifa Haftar responsable pour la destruction de trois quarts de la ville de Benghazi.
Qu'il essaye de reconquérir aux islamistes.
Écoutez, il essaie de reconquérir aux islamistes, mais il a quand même donné énormément de pouvoir aux salafistes extrémistes du wahhabisme. L'est de la Libye n'était jamais salafiste. Elle était toujours soufie depuis le temps des Sénoussiyas. Donc les salafistes se sont mis d'accord avec Khalifa Haftar. Il ne faut pas confondre salafistes extrémistes avec Ansar ou avec Al-Qaïda.
Est-ce que le commandant Ben Nayel a survécu au désastre du 18 mai ?
Ce que je sache jusqu'à aujourd'hui, qu'il a survécu. Mais on n'a pas de preuves concrètes.
Alors les responsables de cette attaque, les hommes de la 3e force qui prennent leurs ordres à Misrata, comme vous l'avez dit, ils affirment qu'ils ont agi en riposte à des attaques préalables de la part du maréchal Haftar et du commandant Ben Nayel. Est-ce que ceux-ci n'ont pas pris un risque stratégique en projetant leurs forces à quelques 700 km de leur fief de Benghazi ?
Écoutez, que ce soit une riposte, mais que tuer des prisonniers et des gens qui travaillent dans la base, des opérateurs civils, de les massacrer comme ça, après qu'ils ont lâché leurs armes, c'est un crime de guerre. Parce que c'était pas 141 personnes qui étaient mortes en combat, c'était 40 morts en combat et à peu près 100 exécutés.
Mais pourquoi une telle cruauté alors ?
Parce que c'est la guerre des minorités dans l'ouest de la Libye. Les Misrati, étant non-arabes, veulent dominer le sphère de pouvoir, car il existe aussi une action contre l'identité arabe. Elle se manifeste depuis 2011, elle s'est remanifestée quand les Misrati ont donné énormément de pouvoir aux Amaziques et aux Tabous. Donc cela convient très très bien aux Misrati, qui ont leur propre compétition et qui laissent Tripoli dans les mains du crime organisé, parce que c'est des mafias du crime pour la plupart à Tripoli. Cela leur convient très très bien pour consolider leur base de pouvoir, à Misrata.
Ces Misrati, ces agresseurs du 18 mai, ils sont théoriquement sous l'autorité du Premier ministre de Tripoli, Fayez al-Sarraj.
Quel Premier ministre ? Un Premier ministre qui est venu dans un navire de guerre italien. Mais quel Premier ministre ? Excusez-moi, cet homme ne contrôle même pas l'immeuble dont il réside. Ses bureaux, il ne les contrôle pas.
Oui, mais tout de même, Rami El Obeidi, ce Premier ministre, il est reconnu par la communauté internationale. Le maréchal Haftar l'a rencontré le 2 mai dernier à Abu Dhabi. Ils ont décidé de respecter une trêve entre leurs deux camps. Comment expliquez-vous cette escalade soudaine, là, ce 18 mai ?
Mais tout ça, c'était pour le PR show. Donc, pour les relations publiques, pour l'opportunité de photo. Comment voulez-vous qu'il y ait une trêve avec quelqu'un qui ne contrôle rien ? Il est reconnu internationalement, d'accord, mais c'est un Premier ministre illégal. Il n'était pas voté par le peuple ou par le Parlement, il était instauré.
Donc en fait, ce que vous dites, c'est que comme Fayez al-Sarraj ne contrôle pas grand-chose, la rencontre du 2 mai dernier à Abu Dhabi n'a pas beaucoup de signification.
Elle a énormément de signification pour Khalifa Haftar, parce que Khalifa Haftar, il doit rentrer dans Tripoli. Bon, ça ne va pas marcher pour lui. Il n'est pas accepté dans l'Ouest, il n'est plus accepté dans l'Est. Je parle aux hommes dans les terrains.
Quelle est la solution à vos yeux, Rami El Obeidi ?
La solution que je vois, c'est que l'état de Barka dans l'est de la Libye va redevenir souverain et se séparer de l'union fictive de 1951. Car il y a une cohésion complète tribale vis-à-vis du peuple de l'Est.
Donc vous voyez la création de deux États distincts, la Tripolitaine à l'ouest et la Cyrénaïque à l'est.
C'est pas une création, monsieur. L'État de Cyrène arabe existait en 1949. On est des peuples différents entre Est et Ouest.
Mais vous savez que pour l'instant, c'est un scénario qui est exclu à la fois par Haftar, par Sarraj et par la communauté internationale.
Peu importe, parce que ce qu'on a aujourd'hui, c'est une manifestation organique et naturelle de la volonté d'un peuple d'être souverain.
Vous n'êtes pas un peu isolé, Rami El Obeidi, dans la classe politique libyenne, quand vous dites que la séparation est inévitable ?
Écoutez, on a eu des manifestations il y a quelques jours sur Benghazi, où le drapeau de Barga, donc la Syrienne, était clairement mis. Donc on a une prononciation, pour la première fois, de la volonté d'un peuple.
Rami El Obeidi, merci.